Dans une récente émission sur les années 70, diffusée par la chaîne Arte, le cinéaste Romain Goupil déclare avec simplicité, c'est la citation numéro 1, « Nous étions des moines soldats ». Tandis que Daniel Cohn-Bendit parle, numéro 2, de « construire l'organisation révolutionnaire capable de diriger la véritable révolution ». De ces expressions qui idéalisent ou métaphorisent ou onirisent les rôles des militants d'extrême gauche, la première est presque le titre d'un livre de Lutz Bassmann, alias Antoine Volodine, paru en avril 2008, avec les moines soldats. Tandis que la seconde, l'organisation révolutionnaire, est raillée de nombreuses fois dans le deuxième livre de Lutz Bassmann, sorti en même temps, Haïku de prison. Or, ces trois personnes, ainsi que beaucoup d'autres, citons par exemple Olivier Rollin, romancier, et Christian de Porzamparc, architecte, sont à peu près du même âge et ont vécu de l'intérieur, en acteurs, les contestations politiques et les mouvements sociaux des années 60-70, sans regretter leur enthousiasme idéaliste, ni renier leurs opinions politiques et leurs actions, ils constatent depuis quelques années qu'une partie de leurs idées et de leurs capacités à les mettre en œuvre étaient des illusions et des rêves, sinon impossibles, du moins fort improbables. Aujourd'hui, Romain Goupil est toujours cinéaste, comme Porzamparc toujours architecte, et Daniel Cohn-Bendit est député vert européen. Olivier Rollin et Antoine Volodine sont écrivains, quoique de manière assez différente, l'un par des fictions réalistes parfois clairement inspirées d'épisodes autobiographiques ou historiques, comme pour tenter de mieux faire comprendre les années de lutte au lectorat actuel, comme par exemple en 2002, Olivier Rollin dans son roman Tigre en papier. L'autre, Volodine, par des fictions résolument décalées de notre société, voire de notre monde, dans lesquelles s'amalgament de façon à la fois épique et dérisoire toutes les illusions perdues et les rêves brisés du XXe siècle, ce qu'il a nommé précisément le post-exotisme, à la fois univers de pensée et genre littéraire. Je le cite, numéro 3. Les bases de la littérature post-exotique furent élaborées durant la décennie 70, durant ces années qui, en dépit de la défaite, restaient enceintes de possibles renouveaux et de possibles encore. Des années de secrets vivaces, lumineux, malgré le plomb et malgré la carcérale violence. Outre la rumination sur l'échec des luttes révolutionnaires ou la dégénérescence des utopies, précisons que la fidélité amoureuse et l'indistinction entre rêve et réalité, dont il sera question dans la suite, figurent également parmi les éléments de définition du post-exotisme. Cependant, la notion de moine-soldat ne date pas du XXe siècle. Saint Bernard, au XIIe siècle, définissant les règles de vie des Templiers, semble être l'initiateur de ce mode de vie sacrificiel et combattant. La pensée révolutionnaire française, de la seconde moitié du XXe siècle, récupère ce concept de dévouement chevaleresque et d'abnégation allant jusqu'à l'abstinence. Suite à l'échec des luttes, au moins en apparence et jusqu'à preuve du contraire, Volodine récupère le terme et l'applique à un ensemble de personnages à la fois pathétiques et dérisoires, anti-héros de luttes déjà achevées et perdues. D'une époque à l'autre, la caractéristique essentielle du moine-soldat reste, par la prière et par le combat, d'être entièrement au service d'un idéal, d'un rêve constitué en système utopique, qu'il soit religieux ou social. Or, c'est précisément dans l'idéalité de cet idéal, ou dans la lettre U de l'utopie, que réside la part de rêve, et qui est plus une part d'idéologie qu'à proprement parler une activité onirique du sujet pendant son sommeil, même si l'une n'exclut pas l'autre. Tout le monde connaît ces deux acceptions du mot « rêve ». En littérature ou ailleurs, il y a deux sortes de « langage du rêve », celui du rêve imaginaire et celui du rêve véritable. Métaphore désignant des souhaits ou des idéaux, Le rêve imaginaire est généralement exprimé par des verbes au futur ou au conditionnel. C'est un langage tourné vers l'avenir ou l'impossible. Que l'on pense au « I have a dream » de Martin Luther King en 1963, et l'on conçoit tout l'intérêt poétique et politique d'une telle métaphore, qui deviendra peut-être réalité dans quelques jours si le sénateur Obama est élu président des États-Unis. En revanche, le récit de rêve véritable s'effectue avec les temps verbaux du passé ou du présent. C'est un langage du témoignage, prétendu véridique, et dans lequel on essaie précisément de ne rien imaginer, dit-on. Mais il ne faut pas confondre ce langage du rêve véritable avec ce qui est communément appelé le langage des rêves, ou clé des songes, et qui est une tentative d'interprétation et en quelque sorte de traduction du récit de rêve afin d'en donner une signification univoque, soit universelle, soit personnalisée. Comme si le rêve était un message codé dont il n'y aurait qu'à connaître le chiffre, ou comme s'il était en une langue étrangère et qu'il suffisait de se le faire traduire. Des tables de simple équivalence, comme il en existe depuis toujours, par exemple, « rêve de voir voler un aigle » veut dire que vos désirs se réaliseront. Jusqu'aux subtiles élaborations interprétatives de la psychanalyse depuis le XIXe siècle, le langage des rêves part du postulat, somme toute optimiste, qu'il est dans l'essence du rêve d'avoir une signification. Quoi qu'il en soit, nous en sommes arrivés à trois langages, c'est-à-dire trois différents types de constructions langagières, de phraséologie et discursive: le langage projectif du souhait, le langage descriptif du témoignage et le langage interprétatif de la révélation. Ces trois dimensions doivent assurément être différenciées lors de la traduction d'un texte d'une langue dans une autre, même si le traducteur ne les a pas précisément à l'esprit. Le discours de Martin Luther King, dont je parlais tout à l'heure, est assurément en langage projectif. Il n'essaie pas de faire croire qu'il a réellement fait ce rêve. Le mot est une métaphore et il exprime tous ses souhaits au futur, voire le texte original. Voyons un exemple chez Michel Butor, dans un texte intitulé « Flottement », de ce que je pense être un déguisement de langage projectif en langage descriptif. Je cite numéro 4. J'ai rêvé cette nuit qu'une grande exposition nouvelle sur l'art japonais à travers les âges arrivait en extrême occident. Il y avait une salle pour les grands céramistes et l'on m'en ouvrait les vitrines. Une pour les humoristes zen, une pour les modèles en papier découpé des maisons de thé fameuses et on les montait sous mes yeux. Une pour les anthologies poétiques et j'en savais lire les lignes. Il y avait 21 salles contenant chacune 21 trésors et l'exposition se promenait, etc. En effet, je me permets de douter que Butor ait vraiment fait ce rêve tel qu'il le décrit. Peut-être a-t-il rêvé de visiter une très belle exposition ou de parler japonais. Ensuite, l'écrivain s'est emparé du sujet et l'a élaboré, organisé et idéalisé, comme l'ont fait beaucoup d'écrivains depuis de nombreux siècles. Pour ne pas nous perdre dans l'histoire littéraire, j'emprunte maintenant mes exemples à Antoine Volodine. Commençons par l'existence même du rêve dans son livre intitulé « Des anges mineurs », citation numéro 5. « Je ne plierai pas le genou devant la mort. Quand cela viendra, je me tairai. Mais je dénierai toute vraisemblance à cette gueuse en approche. Ce sera une menace pour moi sans conséquence. Je ne croirai pas en sa réalité. Je conserverai grands ouverts les yeux comme j'ai pris l'habitude de le faire de mon vivant. » Par exemple, pendant les périodes où j'imagine que je ne rêve pas et qu'on ne me séquestre pas à l'intérieur d'un cauchemar. On ne clora pas mes paupières sans mon accord. Je m'obstinerai dans mon système qui consiste à affirmer que l'extinction est un phénomène qu'aucun témoignage fiable n'a jamais pu décrire de l'intérieur et dont, par conséquent, tout démontre qu'il est inobservable et purement fictif. Avec force, je rejetterai comme sans fondement l'hypothèse de la mort. L'attitude hautaine et thomiste, comme saint Thomas, de celui qui ne veut pas croire sans preuve à l'existence de la mort, se trouve tout de même discrètement sapée et invalidée de l'intérieur. En effet, le personnage explique l'expression « de mon vivant » en disant que c'est, je cite, « par exemple pendant les périodes où j'imagine que je ne rêve pas et qu'on ne me séquestre pas dans un cauchemar. J'imagine ou je me figure ou je pense que je ne rêve pas, ce qui veut dire qu'il y a doute. Et possibilité qu'à la façon aporétique de Zhuangzi ou Soshi en japonais, il ne soit pas possible de dire avec certitude si l'on se trouve dans le rêve ou dans la réalité. Comme le confirme un personnage d'un autre livre de Volodin, Songe de Mevlido, paru en 2007, qui dit avec simplicité « J'étais justement en train de me demander si je rêvais ou non. » Ce qui dépasse ou transforme l'aporie avec Volodin, c'est qu'il y ait possibilité d'être séquestré à l'intérieur d'un cauchemar. Non pas de faire un cauchemar de séquestration, ce qui est pour nous dans l'ordre du possible, mais bien d'être poussé de force et enfermé dans un cauchemar par quelqu'un, un « on », dont nous ne savons d'ailleurs pas s'il se trouve dans ou en dehors du cauchemar. Comme si le cauchemar était un lieu carcéral. Or, cette idée est formulée en quelque sorte naturellement par le personnage. Comme si c'était une idée familière, une possibilité normale dans le monde qui est le sien, et qui n'est apparemment pas le nôtre, évidemment. Sauf à prendre le mot « cauchemar » dans son sens métaphorique de situation catastrophique ou très pénible, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'une référence explicite au rêve le précède. Les exemples seraient nombreux d'une remise en cause, chez Volodin, de l'existence même du rêve comme activité de l'être humain réel. Ici, le naturel avec lequel l'activité onirique est considérée comme un lieu contrôlé par d'autres projette le lecteur dans l'idée d'un monde différent du nôtre. Déjà dans la biographie comparée de Jorian Murgrave, le premier roman publié d'Antoine Volodin en 1985, un individu d'une espèce que nous dirons proche de l'araignée, enfermé dans une cellule dont il parcourt les murs et les plafonds, peut deviner le rêve qui a été en quelque sorte injecté à un co-détenu. J'ajoute que ce livre avait paru dans la collection « Présence du futur » chez De Noël, qui est une collection de science-fiction. L'explication était donnée quelques pages plus tôt, quand le nouveau co-détenu arrive, qui lui est expliqué que cette cellule est bien, mais on y reçoit des visites quand on ne s'y attend pas. Le nouveau demande quel genre de visite et on lui répond, citation numéro 6, « Voilà comment ça se passe. Tu es ici, tu te reposes par exemple, tu as la tête absente, et juste à ce moment, un visiteur t'entre dans la tête, comme un oiseau qui entrerait dans une cage vide. Et il se met à se comporter en maître dans ta caboche. Rien de plus, attends-toi à la nausée de la dépossession, à la déchirure de la dépersonnalisation, mais rien de plus. C'est peut-être une manière de mort, là aussi. Cette fois, le rêve n'est pas un lieu où l'individu est retenu, mais c'est l'individu lui-même qui est considéré comme un lieu, une tête vide, dans laquelle un rêve vient en visiteur. La métaphore est en fait l'euphémisme d'une sorte de contrôle de police destiné à rechercher des informations dans la tête des individus incarcérés. Ce visiteur semble être une variante carcérale et policière des incubes et des succubes qui visitaient le sommeil pour des relations sexuelles. Ainsi, avant même de considérer les contenus des rêves, Volodin nous contraint à déformer ou élargir les conditions d'existence et la nature des activités oniriques. Pour résumer ce que nous venons d'apprendre, je propose de nommer un axe de signification du mot rêve que j'appellerai hôte, host en anglais, dans lequel les contraires carcéralité onirique et onirisme carcéral se réunissent ou se disjoignent selon un principe cher à Victor Hugo et à Lautré Hamon avant de devenir une des dimensions essentielles du surréalisme. On en a déjà parlé. Le concept d'hôte renvoyant à un lieu fixe, que l'on soit invité, otage ou hôtelier, trois mots de la même famille, il faudrait maintenant que je montre, ce dont je n'aurai pas le temps, que chez Volodin, le rêve peut aussi être tout le contraire, à savoir un moyen de transport. Qu'il s'agisse d'aller d'une époque à une autre, d'un lieu à un autre, voire d'un monde à un autre, mais c'est là une acception somme toute assez commune. Je cite chez Volodine, dans le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, numéro 7, « C'est sous une forme invulnérable que le nouveau venu pénètre dans l'incendie. Au lieu d'emprunter une voie naturelle, il a cheminé à l'intérieur des rêves de ses hôtes, s'appropriant ainsi leurs secrets. Lui aussi maintenant présente l'aspect d'un ange mineur, d'un grand oiseau très dur à cuire. » Ce texte est paru avant le livre qui s'appelle « Des anges mineurs ». Mais, comme disait Lautréamont, arrivons tout de suite au rêve, c'est la citation numéro 8, afin que les impatients, affamés de ces sortes de lectures, ne se mettent pas à rugir comme un banc de cachalots macrocéphales qui se battent entre eux pour une femelle enceinte. Citons un autre rêve tiré des anges mineurs, numéro 9. Cette nuit encore, comme il y a 22 ans, j'ai rêvé de Sophie Gironde. Elle m'avait entraîné dans une aventure qui ne s'accordait nullement à mon humeur ou à mes capacités. Nous accouchions des ours blanches dans l'entrepont d'un paquebot. On était au petit matin en panne sur une mer d'huile ou à quai, car le bateau ne bougeait pas. La lumière du jour arrivait à peine jusqu'à nous, les lampes ne fonctionnaient pas, ni la ventilation. L'odeur du sang errait en lourds nuages dans la coursive, elle se superposait aux relents fauves. Les ours blanches se débattaient. Elle grognait d'une manière qui me paraissait agressive, mais qui ne troublait pas Sophie Gironde, plus rodée que moi à ce genre de situation, et peut-être moins impressionnée que moi par le cérémonial ou l'idée d'une mise au monde. Un peu plus loin, Sophie Gironde plongeait les mains entre les croupes et les pattes poisseuses, et elle tirait. Je prenais les oursons en charge, de petites créatures sans grâce, ruisselantes de liquides acres fripés, à peu près aveugles et inertes, je les posais sur la bâche et pinçais le cordon ombilical de chacune d'elles en m'efforçant de bien faire. J'effectuais ces opérations à contre-cœur, l'obstétrique n'a jamais été mon fort. Et la page suivante, partout gisaient des oursons, des flaques de délivre, des flaques de salive et de sang. Comment interpréter ce rêve? Doit-on essayer de traduire le rêve à partir de ces éléments anecdotique pour produire un sens du texte, avec un fond thématique qui pourrait être l'ours comme mammifère sauvage et terrifiant dans les millénaires de l'aventure humaine, sa possible et multiple charge symbolique qui irait des oursons en peluche sur lesquels les enfants bavent aux constellations qui portent ce nom, en passant par le Lochis pathétique et menaçant de Prosper Mérimée. Que dire ensuite de la parturition, du fantasme de l'accouchement pour un narrateur masculin? C'est large comme un boulevard pour psychanalyste. Ou bien faut-il s'intéresser au bateau, au fait qu'il soit à quai ou sur une mer d'huile? Bon. Et si on nous menait en bateau, précisément, avec cette histoire? Après tout, ces éléments constitutifs de ce que j'appellerais un effet d'onirisme dans la narration pourraient bien n'être que des leurres, destiné à égarer aussi bien le narrateur que le lecteur. En effet, à bien y regarder et sans être accaparé par des éléments monstrueux, qu'est-ce qui est donné comme élément central du rêve? Est-ce le délirant accouchement des ours blanches ou le simple fait d'être avec Sophie Gironde? Les deux peut-être. Mais si l'on est attentif à la construction narrative et au vocabulaire de valorisation, on constate que le récit mentionne d'abord le fait de retrouver Sophie Gironde dans un rêve après 22 ans de séparation. Ensuite, le narrateur explique qu'il est pris involontairement dans cette affaire de parturition, que cela prend des proportions énormes et qu'il avoue « l'obstétrique n'a jamais été mon fort ». Puis ses doutes apparaissent à cause du trop grand nombre d'oursons, 12, 13, 14, alors que les ours n'ont qu'un bébé ou deux. Quelque chose clochait vraiment dans notre entreprise, et il ajoute, je cite, « Comme la dernière fois, 22 ans auparavant, et comme souvent lorsque Sophie Gironde m'invitait à partager un moment de complicité. » Enfin, la réponse de Sophie Gironde part, je cite, « un coup d'œil en biais » qui indique qu'elle ne croyait pas à mon existence. C'est le narrateur qui parle, et l'épisode s'arrête peu de temps après. Outre ces ours et leurs oursons, le rêve permet de retrouver une personne qui semble chère et de vivre ensemble un moment d'intimité véritable. Mais le trop grand nombre d'oursons produit le doute du narrateur et ce simple fait de vouloir revenir à un semblant de vraisemblance brise la complicité, l'intimité, la bulle de rêve où les deux personnes se sont de nouveau réunies. Ours et oursons sont donc bien des opposants ou des freins à ces retrouvailles, d'abord par le fait qu'ils accaparent les deux personnages dans une action où Sophie s'investit à fond, ensuite par le fait que leur nombre croissant dévoile la nature onirique de la rencontre et rompt le charme. On peut dire aussi que c'est la rigueur logique du narrateur qui lui interdit de rester avec celle qu'il aime par-dessus tout, comme il le dira quelques dizaines de pages plus tard. Je ne lis pas la citation numéro 10 qui confirme ceci. À ces deux étages de la lecture, l'anecdote et l'idée de fond s'ajoutent des questions liées au vocable choisi, à leur étymologie. En effet, Sophie Gironde n'est pas là par hasard. Gironde signifie « beau, joli, bien fait », en particulier, et pour une femme, « potelé, aux formes arrondies », selon le TLF. Et Sophie, du grec Sophia, je n'explique à personne. Est-ce une sorte d'idéal féminin du narrateur, cette sagesse joliment potelée ? Sans oublier que de sage, nous dérivons sage-femme, qui est une auxiliaire des accouchements. Le nom du personnage correspondrait donc à la fois à l'idéal du narrateur et à la situation du rêve. C'est une situation de rêve pour un herméneute. Deuxième élément d'étymologie, les ours, puisque Volodine n'a pas choisi des girafes ou des orangs-outans. L'expression « les ours » désigne anciennement et sans vulgarité les règles des femmes, la période de menstruation. Il s'agit d'une référence à la mythologie grecque et au culte de la déesse Artémis, à qui les vierges athéniennes devaient offrir leur premier linge menstruel. C'était parce qu'une des nymphes, Callisto, avait été déflorée et mise enceinte par Zeus, comme d'habitude, puis punie par Héra, la femme de Zeus, qui la transforma en ours. Callisto allait être tuée par son propre fils, et Zeus, pour la sauver, la transforma en constellation de la grande ours. Hop ! Maintenant, comment assembler ces éléments ? Puisqu'il y a trop d'oursons sortant des ours, peut-on penser que le narrateur fantasmerait sur l'abondance menstruelle, qui serait comme un signe de fertilité exceptionnelle, couplé à la mélancolie de la séparation longue et peut-être définitive ? Cela expliquerait un regret de n'avoir pas procréé plutôt qu'une trop simple pulsion sexuelle. Mais pour que ces possibilités d'interprétation puissent exister en traduction, qu'elles soient possibles et cependant pas obligatoires, il faudrait que ces éléments étymologiques, Sophie Gironde et ses ours, eussent été traduits, si traductibles, ou transposables dans l'étymologie et la mythologie d'une autre culture. Et en restant un peu en retrait par rapport à l'anecdote. En manière de conclusion, je dirais que, pour répondre à la question « comment traduire le rêve ?», il faudrait d'abord pouvoir répondre à la question « que traduit le rêve ?». En effet, des phénomènes complexes encore largement incompris, et si l'on ne peut connaître certains éléments de vécu, de comportement ou d'histoire individuelle, il ne sera pas possible de décider quelle angles sélectionnés, quelles informations privilégiées ou, à défaut de logique, quelles constructions langagières élaborées. En réalité, il n'est probablement pas possible de répondre à la question « que traduit le rêve ?». Si cela était possible, soit les tables à trois sous du langage des rêves seraient les instruments privilégiés des gouvernants, soit les cures psychanalytiques ne dureraient pas des décennies. Les traducteurs sont mis dans la situation pragmatique de traduire les rêves en même temps que le reste et sans savoir ce que les rêves traduisent, de quoi ils sont les symptômes ou les annonces prémonitoires. Cependant, pour faire ces choix linguistiques et culturels arbitraires, l'esprit des traducteurs se déplace sans arrêt sur cet autre axe de réunion des contraires que je bouclerai volontiers en ruban de Möbius. Prenez un tourner, voilà, ruban de Möbius. Hein. Celui de l'avant et de l'après des rêves. Rêve traduisant quelque chose, rêve traduit en quelque chose. J'illustre cette aporie dans le sens des rêves par quelques extraits d'un roman de 1994 intitulé « Le nom des singes ». D'abord, le rêve au sens projectif, citation numéro 11, « On va remonter là-bas KO, on ira plus loin que les sources s'il le faut. » Donc, on réquisitionne des pirogues, etc. Je continue pas la citation. Numéro 12, « Voilà ce que nous aurions dû laisser derrière nous pour remonter le fleuve jusqu'à sa source. » Voilà un projet de vie, de belle vie. Pourquoi pas? Mais quelques pages plus loin, tout cela devient le contenu d'un rêve, et l'on passe au langage descriptif. Outre les références déjà données, on pensera par exemple au roman d'Alain Robbe-Grillet, intitulé « Dans le labyrinthe », publié en 1959, dans lequel un personnage passe d'une réalité dans celle d'une représentation graphique qui est accrochée à un mur par un processus purement textuel et alors nommé par les critiques « invagination ». Je cite la suite de Volodin, numéro 13. « Je rêvais que je me dirigeais vers les sources de l'Abacao et que je les avais dépassées, dit-il. La pirogue se balançait, l'eau couverte de plantes pourtant ne frémissait pas. J'avais atteint un lac, un grand lac. » Mais peut-on remonter une rivière et en dépasser les sources pour atteindre un lac? Et s'il existe un lac plus haut qu'une source, n'est-il pas alors lui-même la source? Et l'eau du lac ne vient-elle pas de plus haut encore? Des marécages, écrit Volodin, ou de ce qu'il nomme ailleurs les boues originelles. Belle métaphore phylogénétique. En rêve comme en réalité, il faut accepter, en rêve comme en réalité littéraire, il faut accepter de ne pas pouvoir tout comprendre ou traduire, d'être vaincu par le rêve comme par le texte. C'est qu'il y aura toujours, pour Volodin, citation numéro 14, il y aura toujours le principe post-exotique selon quoi une part d'ombre toujours subsiste au moment des explications ou des aveux, au point de les rendre inutilisables par l'ennemi. Car l'ennemi est toujours quelque part, rôdeur, déguisé en lecteur et vigilant parmi les lecteurs. Merci.
Merci Patrick, je crois qu'il faut vraiment de savoir gré, d'avoir essayé de rendre un peu compréhensible cette œuvre souvent énigmatique que celle d'Antoine Volodin. Alors, le rêve est-il un moyen de transport? Est-il une sémantique? Est-il une bouffonnerie transcendantale? Est-il une déconstruction du langage? Je crois que nous allons avoir beaucoup de sujets de discussion. Une discussion à laquelle on peut compléter, je crois, un quart d'heure, une minute.
D'interprétable ou qui puisse être objet d'une science, enfin la littérature, enfin, d'après ce que vous dites, ou bien pour le login, où on peut jouer, enfin si on appelle ça rêve, tout ça, si on dit que c'est tué, tout ça, c'est un rêve, dans la démonstration de Lise, des saints comme expression d'autre chose, enfin qui serait sur la possibilité de décoder un rêve par la comparaison avec des dessins grotesque ou adolescente. Donc il y a comme une résistance, je sens comme une résistance théorique dans la communication à ce que le rêve puisse être objet d'une observation un peu scientifique ou. Enfin, c'est tout, hein, c'est une remarque, c'est pas une question. Personne n'est responsable de ça.
Qui veut répondre?
Mais pour ce qui serait scientifique, il faudrait qu'on ait une captation des rêves. En l'occurrence, on n'a que des narrations postérieures, qui sont des reconstructions par le langage et à travers l'individu. Donc tant qu'il n'y a pas un phénomène qui permet de les enregistrer, il n'y aura pas d'observation scientifique. Donc c'est toujours pseudo-scientifique. Par ailleurs, je ne suis pas contre qu'on essaye d'interpréter, hein, personnellement.
Oui, je poursuis là-dessus en disant que c'est parce que pour interpréter les rêves, il faudrait qu'il y ait un métalangage. Et que pour croire à un métalangage, il faut qu'il y ait un métamonde. Donc, effectivement, il y a des pistes, il y a des gens qui vont faire des symboliques des rêves, comme Gilles Schubert, mais c'est parce qu'il présuppose une autre clé qui est celle de notre langage à nous dans un monde de l'immanence. Hein. Donc, sauf à croire en l'existence d'un métalangage dans l'universel, etc., on a du mal à croire à une symbolique des rêves. Hein. Et d'ailleurs...
Je crois pas que c'était ce qui a résolu.
Si, elle dit, on est tous dans l'idée que...
Il y a une résistance.
Qu'on ne peut pas... qu'il n'y a pas une transcription, parce que pour qu'il y ait une transcription, il faudrait qu'on sorte du monde dans lequel on est, du langage dans lequel on est, pour pouvoir rendre compte objectivement de ce qu'on dit. Hein, on n'est jamais que dans du langage. Et c'est le texte de Freud que je citais, hein, qui dit ah mais attention, le rêve c'est pas le contenu manifeste. Mais alors attention, faudrait pas croire non plus que c'est le contenu latent, parce que je pense qu'il prenait ses distances lui-même avec ce qui avait été une dérive d'interprétation des rêves, qui est l'influence de Jung dans l'interprétation des rêves, qu'il a eu un peu forcé la main pour le chapitre où on donne une clé. Tel rêve signifie telle chose. Et ça, c'était très étranger à Freud lui-même, je pense.
J'ai même cru comprendre que l'écriture, le but de l'écriture, le rôle de l'écriture, consistait à brouiller les pistes. Non, monsieur.
Moi.
Et que rendait les choses difficilement discernables.
Oui. Oui, parce que dans la perspective, par exemple, de cet auteur, Bonaventura, qui est purement athée et qui ne croit pas en l'existence d'un autre monde, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a rien. Il n'y a qu'une chose qui met fin à ce jeu d'interprétation infinie dans ce texte, c'est la mort. Tout d'un coup, c'est la mort de l'enfant né, de l'enfant mort-né, en quelque sorte. Et puis j'ai pas eu le temps parce que j'ai été coupé. Et à la fin du texte, il recherche son père. Alors je vois là quand même une espèce de la figure du père comme quelque chose qui lui permettrait de donner sens à sa vie, d'interpréter et sa vie et ses rêves peut-être. Alors il se fait une espèce de père fictif, etc. Et puis à la fin du texte, il est plus ou moins en train de rêver parce qu'il a la statue de son père, le visage qui est un masque de son père. Et puis peu à peu, ça tombe en poussière. Hein, et puis le texte, je vais vous lire ce beau passage quand même parce que j'ai pas eu le temps. Et là, ce que vois-je? Es-tu toi aussi un masque qui m'abuse? Je ne te vois plus, père. Alors, c'est presque biblique. Je ne te vois plus, père. Où es-tu? Au contact, tout tombe en poussière et sur le sol, il ne reste plus qu'une poignée de poussière et quelques vers bien nourris s'éloignent subrepticement, ainsi que de funèbres prédicateurs qui, lors du festin qui suit les funérailles, ont trop présumé de leur appétit. Je jette en l'air cette poussière paternelle et que reste-t-il? Rien. Là-bas, le visionnaire se tient toujours sur l'autre tombe. Et qu'étreint-il? Rien. Et l'écho de l'ossuaire répète une dernière fois, rien. Il n'y a que ça qui peut mettre fin au texte. C'est la mort.
Pour poursuivre cette question, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, surtout en écoutant l'histoire, mais c'est vrai aussi en écoutant Eric, c'est qu'il y avait à la fois l'affirmation du caractère non codifié ou incodifiable du langage des rêves, la
l'absence de grammaire, l'absence d'un horizon transcendantal, et puis en même temps le fait que ces rêves, tels que les images qu'elle écrivait, étaient extrêmement marqués, extrêmement inscrits historiquement, et que pour nous, à défaut d'avoir la grammaire, le vocabulaire et les éléments sémantiques nous trouvent aux yeux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de contradiction à faire du rêve à la fois l'essence même du langage privé qui distingue la masse signifiant et signifié, et en même temps de dire que par-delà l'individu s'exprime quelque chose qui serait supra-individuel ou qui ne serait pas propre à l'individu? Est-ce qu'on ne retombe pas quand même dans un horizon d'intelligibilité à un moment ou à un autre, soit historique?
Je ne suis pas sûre de répondre exactement à ta remarque, mais simplement, je pense à la distinction que... Enfin, le rapprochement entre le dessin et le rêve a été fait notamment... Enfin, entre l'image et le rêve a été fait notamment par Hubert Damisch, et il proposait un rapprochement avec le fonctionnement du discours tel que le pensait Benveniste, la distinction entre... le trésor collectif que serait la langue commune et puis l'élaboration d'un discours individuel. Il disait, le problème c'est que le trésor collectif qu'est la langue commune, en matière d'art, c'est bon, toute l'histoire de l'art, mais il n'y a pas ce même rapport, on ne va pas pêcher exactement dans un trésor collectif pour construire une image, puisqu'on peut inventer des nouvelles langues, contrairement au rapport entre langage et discours. Dans la langue, voilà. Je ne sais pas si ça va
s'exprimer.
Voilà. Donc ce rapport entre. En même temps, oui, on se saisit de codes, mais on peut faire des contresens par exemple très facilement. On trouve des codes pour interpréter une image en essayant de les reconstituer, mais on peut aussi les délirer, les images.
Voilà. Mais dans le cas de l'humour, antique, justement, il n'y a pas de code, puisque à chaque fois, c'est... S'il y a des codes, par exemple, la référence à Hamlet, c'est un faux code, parce que Hamlet, ça fait référence à Hamlet, qui est lui-même le personnage qui ne sait pas qui il est, et qui va lui-même se mettre en scène sur une scène de théâtre pour essayer de répondre à la question de qui a fait quoi, etc. Donc, c'est un processus sans fin, et donc, il n'y a pas de métalangage, il n'y a pas de code ultime, mais on est toujours renvoyé dans une série de codes à l'infini. Donc ça ne définit pas ni une identité, ni quoi que ce soit. Bien sûr, ça renvoie à quelque chose, mais ça ne renvoie qu'à des représentations. Le rêve n'est, comme la vie, qu'un système de représentations, sans jamais qu'il y ait de modèle ultime. Hein. Sans jamais que le poète, ben justement, c'est le poète, c'est celui qui reste quand même dans la caverne. Tu veux ajouter ?
Non, ou alors peut-être en manière de plaisanterie, de dire que s'il y a une résistance à l'interprétation des rêves, on pourrait dire dans l'autre sens qu'il y a aussi une résistance à l'ininterprétabilité probable des rêves, hein, de la part de gens qui essayent de les interpréter, qui ont ce mérite, et il faut qu'ils continuent. Mais jusqu'à preuve du contraire, ni les uns ni les autres n'ont raison ou tort. Donc, continuons.
C'est juste pour discuter, hein. Mais ce qui distinguerait le réel et le rêve, c'est pour Descartes, c'est que le réel peut éventuellement être partagé, modélisé par d'autres, enfin, et pas individuel. Mais justement, ce qui se rapprocherait du rêve, c'est la poésie, enfin la poésie, le poème ou l'œuvre poétique, puisqu'elle est individuelle aussi. Donc, l'avenir, c'est sur une grammaire, c'est conçu sur le langage, et donc c'est conçu sur un code partagé par d'autres, ce qui permet une communion, une vérification, admission de réalité du poème, alors que c'est, dans ce sens, ça relève du même fonctionnement, un poème, un texte et un rêve, c'est individuel aussi. C'est
Ce qui manque donc au rêve, ce serait que le rêve ne sont pas des mots au départ. Ils deviennent des mots dans le récit. Donc, ce que tu appelles un métalangage, c'est que tu ne peux pas accéder au rêve sans passer par les mots. Alors que si c'est le problème de l'indéchiffrabilité parce que individuel, ou parce qu'on ne peut pas, un métalangage serait par les mots, un métalangage du rêve. Et le poème est directement dans les mots, donc il y aurait une différence, peut-être, de nature qui permettrait d'admettre le poème comme parfois une vision. Une vision du monde, on va dire rapidement, sans l'interpréter, hein, je parle pas du contenu lexical, mais et le rêve, hein, ça serait ça, ça serait que tu rêves pas en mots. Alors pour le psychanalyste, enfin je suis sort, hein, que ce qui intéresse le psychanalyste, c'est pas la question impertinente, que traduit le rêve, il analyse par les mots. Que l'analysant traduit de son rêve, mais qui n'est peut-être pas la réalité du rêve.
Oui, enfin, je ne sais pas si je rejoins à ce qu'on venait de dire, mais il semble qu'il y a deux questions à propos du rêve. D'abord, comment est-ce qu'on peut décrire exactement un rêve? C'est un peu la question que se posaient les surréalistes quand ils essayaient de faire une écriture automatique. C'est un peu ça. Alors il faut demander un peu là-dessus aux gens spécialistes. Et d'autre part, quand on fait un rêve, enfin je dis faire un rêve quand même, quand on fait un rêve, le sujet est dedans, en quelque sorte dedans. Et on ne peut pas avoir une vraie distance avec ce qu'on vit. Et alors, quand je marche, quand je mange, je peux en même temps décrire en quelque sorte ce que je fais. Mais quand on fait un rêve, je ne peux pas en même temps décrire, puisque je suis dedans. Je suis dans le rêve. Je suis le rêve. Alors, il y a ces deux difficultés qui se posent, semble-t-il.
Oui, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, enfin, moi je reprendrais bien la distinction.
Ça marche.
Alors, de nouveau, j'adhérerais assez à ce que tu disais, et ça marche de nouveau si on reprend la distinction langage-discours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trésor commun du rêve, donc chacun élabore sa propre syntaxe, et donc c'est bien le moment de la mise en mots qui permet de passer au moment du trésor commun. Et d'autre part, alors là je m'aventure sur un terrain que je mal, mais il me semble que ce serait pas absolument provoquant. Enfin, il me semble que Freud lui-même utilisait le rêve, en tout cas là quand j'en suis sûre, comme dans la cure analytique, comme moyen d'une mise en discours, mais sans fétichiser le rêve pour lui-même, simplement comme provocateur de parole, de prise de parole.
C'est ça, en fait, c'est à peu près ce que je voulais dire. Je te remercie de m'avoir capturé la pensée. Et en fait, ce qui intéresse le psychanalyste, c'est pas tellement le rêve, c'est le patient lui-même. Donc comment il va en parler, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'était le rêve, finalement, on peut même pas le savoir. Et le rêve est un peu comme dans les films policiers, une sorte de MacGuffin, un truc comme ça qu'on court après, mais finalement, l'histoire est très différente.
D'autres questions?
J'ai trouvé qu'il y avait de la
on est bien d'accord. Je rêve d'autres questions. On peut le garder peut-être celui-là.
Je vous remercie de toutes ces consultations que vous avez faites. J'aimerais poser une question à Madame Lise Vazelman. Vous avez montré le livre enluminé, je pense que ça s'appelle, c'est ça, enlumineur.
Non, ce sont des gravures.
Sur l'écran, j'ai... Ah bon, c'est simplement des gravures. Ah, d'accord. Là, j'ai vu, en fait, les images grotesques avec les figures humaines, animaux, etc. Mais déjà, au Moyen-Âge, ça existait, le livre, enfin, je me rappelle peut-être, ça s'appelle enlumineur, enlumineur comme ça, comme cela. Et là, dans ce texte-là, il y a, dans la marge du texte, il y avait aussi des images végétales, plutôt, en fait, il y avait de la végétation, des images végétales. Alors, je pense que le passage des images végétales aux images humaines, enfin, les animaux, me semble assez important dans ce parti. Enfin, il me semble que c'est très important. En fait, est-ce que c'est parce qu'il y a eu la découverte du palais d'or de l'empereur Néron à cette époque-là qu'on s'intéresse aux figures humaines plutôt que la végétation?
Oui. Alors, en effet, c'est ce que j'avais voulu montrer, c'est le recueil de gravures se situe à l'intersection de ces deux traditions, d'une part des marginalia et d'autre part en effet de la grotesque. Mais pour les marginalia du Moyen Âge, elles peuvent être, il n'y a pas seulement la végétation, il peut y avoir plein de petits monstres obscènes. Hein, donc là, on est vraiment dans cet héritage-là, sans aucun doute. Mais je pense qu'en effet, la production de ces images monstrueuses qui n'occupent plus seulement la marge, mais ici le centre du livre, vient témoigner d'une expansion, d'un intérêt croissant pour ce type de figure qui est passé en effet par la redécouverte des grotesques antiques en Italie notamment.
Moi aussi, je pense que dans la marge du texte, en fait, dans la partie décoration, s'il apparaît ces figures humaines, je pense que c'est vraiment très très intéressant, plutôt que des animaux, des épaules et tout. Voilà.
On n'a rien à dire sur le là-bas le micro de l'assistant.
Il n'y a pas d'autres questions. Je crois que toutes les communications d'aujourd'hui sont terminées. Mais je pourrais continuer demain à l'Institut. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, qui ont fait une communication, mais aussi tous ceux qui sont venus écouter, malgré le mauvais temps, surtout malgré le froid. Je suis désolé de cela, surtout pour les Français qui sont venus à Coca en espérant avoir entendu le coup de main. Mais nous ne pouvons rien faire contre cela. Les conditionnels à Sénat semblent fonctionner uniquement selon le calendrier, non pas selon la température. Donc en vous remerciant, et aussi en remerciant aussi les étudiants qui ont préparé la salle et les calendriers, je vous propose de nous réunir tous dans la salle de l'étudiant. Nous avons préparé un petit pot qui se trouve là. dans le bâtiment d'à côté, ça s'appelle Clos Plaza, au premier étage, qui est dans un cadre à 6 heures 30.
Merci.